France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Le président des jeunes agriculteurs, Jérémy Deserle, répond à vos questions. Il a rencontré hier Emmanuel Macron à l'Élysée. Emmanuel Macron qui recevait tous les syndicats de l'agriculture. Premier appel, c'est Jean Guillaume, si je lis bien mon écran, qui est à Tarbes. Bonjour.
Bonjour.
Notre invité, Jérémy Deserle, vous écoute.
Merci, merci beaucoup. Donc oui, ma question, on a eu quand même pas mal de ministres de l'agriculture plutôt forts et plutôt importants dans les différents gouvernements des dernières années en France. Je voulais savoir comment le président des JA analysait l'absence du ministre de l'agriculture à la rencontre du président de la République avec les différents syndicats agricoles. C'est assez étonnant, je trouve.
Jérémy Deserle.
D'accord, bah effectivement, mais... Personne, enfin ça n'a échappé à personne que le président Macron ne fait pas tout à fait comme ses prédécesseurs et ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Donc nous aussi, ça nous a surpris quand j'ai évoqué avec le ministre ce rendez-vous avec le président de la République. Je pensais qu'il allait me dire qu'il serait des nôtres et effectivement il n'est pas venu. Alors c'est voilà, je pense que c'est comme ça avec les autres catégories socio-professionnelles qui sont qui rendent visite à Monsieur Macron, c'est son style, c'est sa façon de faire. Voilà, bon, le ministre aurait été là, ça aurait sans doute été aussi bien hier, mais il nous a pas non plus manqué. Voilà.
Julien, bonjour. Vous écoutez France Inter et vous souhaitiez intervenir. Eh bien, c'est le moment. Vous êtes en direct sur l'antenne. Julien.
Oui, bonjour. Julien, agriculteur dans Lyon. Je souhaitais interpeller votre invité sur un paradoxe. L'agriculture subit depuis très longtemps le plus grand social de l'histoire française. On n'en dit pas le nom. Et puis ça fait pas la une des journaux. L'âge moyen des agriculteurs est de 55 ans. Face à ça, les lycées agricoles sont pleins. Et dès que des terres se libèrent, ça part pour agrandir d'autres exploitations. Comment on fait pour prioriser et installer des jeunes en priorité alors que la profession agricole est vieillissante?
Jérémy Deserle.
Alors, merci pour cette question. Donc, sur l'installation en agriculture, on a la chance en France quand même d'avoir des dispositifs d'accompagnement qui sont pour le coup pertinents et qui sont basés à la fois sur de l'argent sonnant et épluchant, des aides publiques qui financent, qui accompagnent le financement des installations, et aussi tout un accompagnement humain qui est personnalisé pour chaque jeune qui souhaite rentrer dans le métier. On lui propose un plan de professionnalisation personnalisé, donc pour justement adapter sa formation à son projet d'exploitation et aussi aux compétences qu'il pourrait déjà avoir acquis par le passé. Et donc ça, déjà, c'est une chance dans ce pays d'avoir tout ça. Et donc ça, on doit continuer à le développer, continuer d'accompagner un maximum de jeunes. Et pour anticiper aussi justement le départ en retraite et les cessations d'activité qui vont avoir lieu ces 5-10 prochaines années, il nous faut trouver un dispositif d'accompagnement aussi pour les cédants, pour que la transmission soit beaucoup plus fluide. Donc, bien sûr, quand on parle de crise agricole profonde, ça peut faire un peu poser beaucoup de questions sur l'importance ou la pertinence de continuer d'accompagner des jeunes vers l'installation dans une profession qui est en crise. Mais par contre, encore une fois, la plus grande richesse, ça reste quand même les hommes et les femmes, et si on ne les renouvelle pas, eh ben on perd gros.
Julien parlait d'un plan social qui touche l'agriculture depuis des années. Je lisais sur le Huffington Post que près de 20 000 exploitations menacent de faire faillite en 2018 à cause des revenus trop faibles. Chaque jour actuellement, des exploitations ferment ?
Ah, chaque jour, oui. Chaque jour, ils s'en ferment même plus d'une dizaine chaque jour. Enfin, des paysans qui arrêtent. Tous les ans, il y a 16 000 cessations d'activité. Donc, départ en retraite ou cessation cessation d'activité anticipée, quoi. Et donc oui, tous les jours il y a des exploitations qui ferment en France, mais malheureusement la cadence s'accélère un petit peu à cause des revenus qui sont trop faibles. Enfin, on peut pas tenir à 350 euros par mois trop longtemps non plus, quoi.
Mmh. Vous l'avez expliqué ça hier à Emmanuel Macron.
Mais bien sûr, quand on a fait en introduction du rendez-vous, quand on a fait un peu le constat de la situation agricole, voilà, on lui a dit mais quelle autre catégorie socio-professionnelle pourrait se permettre de laisser voilà, laisser ses exerçants dans cette crise-là.
Nathalie à Bayeux. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Jérémy Dessert vous écoute.
Oui, merci. Je voulais réagir donc au propos de M. Dessert. Tout à l'heure, vous avez indiqué ne pas vouloir opposer les modèles. Mais justement, est-ce que le problème ne vient pas de là? On a un système conventionnel, on voit bien qu'il ne fonctionne pas, qui ne fait pas de la qualité et qui a beaucoup d'impact sur l'environnement. Et à côté, on a des modèles durables qui se développent de plus en plus. Est-ce que la sortie de crise, elle n'est pas d'aller sur ces modèles plus durables? Et je pense que tout le monde aurait gagné, aussi bien les agriculteurs et surtout les agriculteurs, par rapport au sens que ça pourrait avoir aussi de revenir à redonner du sens à l'agriculture, aussi pour les consommateurs, évidemment, on voit bien qu'il y a des problèmes même d'œufs contaminés, donc les consommateurs s'y retrouveraient, et aussi l'environnement, hein, parce qu'il faut bien voir la planète, dans quel état on va laisser à nos enfants. Donc voilà, je me demandais pourquoi le mouvement des jeunes agriculteurs et même des autres syndicats ne soutenait pas plutôt des aides et des soutiens pour aller vers une agriculture plus durable.
Jérémy Dessert.
Ok. Donc justement, déjà pour recadrer un peu, remettre un peu l'église au milieu du village, les jeunes agriculteurs, on le dit et on le dira et on continuera de l'affirmer à chaque fois qu'on nous donnera l'occasion de s'affirmer, il est important en France qu'on conserve et qu'on préserve des fermes familiales. On avait sorti une tribune au mois d'octobre où justement on expliquait qu'on voulait des fermes et pas des firmes. Voilà notre credo. Et quand on parle de fermes familiales ou de modèles agricoles de type familial, derrière on entend surtout la place de l'homme et enfin de l'homme, des hommes et des femmes qui exercent ce métier-là pour qu'ils gardent toute la responsabilité de leur exploitation, de leur outil de travail, de sa gestion, et ça nous paraît important. Quand j'explique, enfin quand je dis qu'il ne faut pas opposer les modèles, justement, si en France on arrive encore à malgré tout mettre en avant cette qualité agricole, ces performances agricoles en termes de gastronomie, je pense que la France est quand même dans les pays les mieux placés. C'est quand même pas que grâce aux restaurateurs, il y a aussi des producteurs derrière qui font de bons produits.
Mais quand Nathalie évoque un modèle plus durable.
Mais modèle plus durable, je pense qu'il existe déjà en France. Ouais. Et faut pas justement en France, on a trop cette tendance-là à dire l'agriculture est pas bonne, mais parce qu'on la montre pas correctement. Enfin, l'agriculture française, elle est meilleure que les autres agricultures, comme en Allemagne. En tout cas, elle répond mieux aux attentes sociétales. On n'en parle pas aujourd'hui. Il y a de la dépollution dans l'eau. On connaît une dépollution importante de l'eau. Et ben c'est aussi dû aux pratiques des agriculteurs qui ont évolué en écoutant aussi les attentes et les demandes de la société. Et ça, on le fait, on est prêt à le faire et on répondra à tout ça. Mais il faudra aussi que ce soit rémunérateur. Et si demain, nous ne voulons pas être cantonnés à manger du poulet javelisé, du bœuf hormoné ou je ne sais quel végétaux génétiquement modifié, il faut arrêter de taper sur l'agriculture de notre pays.
Julien à Beaugency. Bonjour Julien.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Je voulais poser une question à Jérémy. Vous êtes effectivement, vous parlez d'un prix juste pour vos productions, mais aujourd'hui, on sait que les filières agroalimentaires, elles peuvent s'approvisionner partout dans le monde, les marchandises traversent le monde et traversent l'Europe en camion ou en bateau. Est-ce que vous pensez réellement que vous pourrez obtenir un prix juste tant que vous serez en concurrence avec des modèles agricoles polonais, espagnols, marocains, ukrainiens ou allemands, qui, comme vous le disiez juste à l'instant, ont pas forcément les mêmes critères de qualité que nous, les mêmes objectifs de qualité que nous. Et est-ce qu'à un moment, il ne faut pas se diriger vers du produire en France ce qu'on mange en France, produire en Nouvelle-Zélande ce qu'on mange en Nouvelle-Zélande, et produire en Espagne ce qu'on mange en Espagne?
Jérémy Dessert.
Je suis assez d'accord avec avec votre proposition et je pense que là est aussi là où se trouve le rôle de l'État et de la puissance publique. Aujourd'hui, on peut pas réglementer toute la profession agricole telle qu'on le fait en continuant d'importer des produits, comme vous l'avez dit, qui sont pas du tout qui ne respectent pas du tout les règles que nous on nous impose. Donc ça c'est aussi du rôle de l'État et de finalement de la loi de sanctionner, de définir une règle qui mette en avant plutôt les produits français. Comment on peut expliquer encore en France aujourd'hui que plus de 70% de la viande qui est consommée dans la restauration collective est importée? Les éleveurs de viande, bovins viande, crèvent tous les jours et on importe plus de 70% de la viande bovine qui est consommée en France.
Vous l'avez dit hier à Emmanuel Macron, est-ce qu'il vous a dit que les choses allaient changer par exemple sur ce dossier-là?
Il nous a redit qu'il comptait bien faire appliquer un certain nombre de mesures qui existent dans les différentes lois, que ce soit la loi Sapin, que ce soit la LME ou la loi de Benoît Hamon. Il nous a dit qu'il allait faire respecter les mesures qui répondraient aussi aux attentes, entre autres, des agriculteurs.
Est-ce qu'on peut contourner la grande distribution avec les fameux circuits alternatifs dans lesquels vous avez finalement plus de facilité pour fixer vos prix ?
Alors les circuits alternatifs, on y croit et puis on pousse aussi à faire en sorte que ça se développe. Mais on peut pas passer toute notre production non plus là-dedans. Ça, il faut aussi que le consommateur et le concitoyen en soient conscients. Il y a une production, on va pas se mettre à manger toujours la même chose juste pour aussi faire profiter et puis du coup rémunérer l'agriculteur. Donc il y a des circuits de distribution à faire évoluer. À développer. Les circuits courts, la vente directe font partie des solutions et on doit trouver encore d'autres circuits intermédiaires.
Dernière question, Jérémy De Serle. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a éternellement des crises agricoles ? C'est toujours pareil. Les prix baissent, vous manifestez, le gouvernement intervient en urgence et un peu plus tard, ça recommence.
Je pense que la planète et nombreux de ses dirigeants n'ont encore pas compris que c'était quand même un peu dramatique de laisser presque 1 milliard de personnes crever de faim. Et donc, je pense que tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on continuera d'échanger des produits alimentaires contre des avions de chasse, on continuera d'avoir des crises agricoles. Donc, il faut repositionner l'alimentation comme un vrai challenge international.
Jérémy De Serle, président des jeunes agriculteurs, était l'invité de la rédaction de France Inter ce matin. Merci beaucoup.